RFI vous présente Afrique Press.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Pierre Benoît de TV5 Monde, Francis Laloupeau, Africa numéro 1, et Marie-Roger Biloa, Africa International. Et c'est autour de trois sujets hein, dans cette édition. La Côte d'Ivoire, où le oui écrasant donc l'a remporté au référendum constitutionnel de dimanche dernier, mais avec un taux de participation sous la barre des 50%. En Centrafrique, l'adieu aux armes des troupes françaises de l'opération Sangaris. Et puis au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, visé par une enquête après une saisie de drogue dans le port de Cotonou. Une affaire bien troublante. D'abord donc cette constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire, adoptée par référendum le dimanche dernier, 30 octobre, promesse donc tenue hein, pour le président Alassane Ouattara, Pierre Benoît. Il a doté la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution approuvée par plus de 90% des électeurs. Le président se félicite d'un plébiscite, mais le taux de participation est moins glorieux, hein, 42% seulement de votants, 14 points de moins que lors de l'adoption de la Constitution en août 2000. Pascal Afinguessan, l'un des chefs de file de l'opposition, qui avait appelé au boycott du scrutin, avance même un taux de mobilisation de l'électorat très nettement inférieur à ces 42%, Pierre.
Hassan, il y a deux problèmes. Le premier, c'est sur les chiffres. D'abord, hein, parce que comme vous le dites, le taux est faible. Et le taux officiel de 42, il y a très peu d'Ivoiriens, et ceux qui nous écoutent ne vont pas me contredire. On peut penser que c'est très en dessous de 42%. Ça, c'est le premier problème. Et puis, sur le projet politique, cette troisième constitution, c'était le temps fort du mandat du président Ouattara, c'était la modernisation du pays. Eh bien, il y a une scorie institutionnelle, quand même, qui pose problème, c'est que elle va s'appliquer pour la question du vice-président en cours de route. On tire un trait sur l'ivoirité, c'était la pomme de discorde depuis les années où Fouette Boigny. Donc le président peut être de mère ou de père ivoirienne. Et puis surtout, il y a un vice-président, c'est donc un peu une modernisation américaine. Le seul problème, moi, comme ça, dit comme ça, on dit parfait. Sauf que la nouvelle constitution va s'appliquer tout de suite et un vice-président va être désigné et celui-là ne sera pas élu puisque celui qui a été élu, c'était Ouattara, sans vice-président.
Voilà. Alors ça, c'est l'aspect, je dirais, politique, hein, Marie-Roger. Alors cette nouvelle constitution, d'après ses promoteurs, une constitution qui se fonde sur 184 articles, devait promouvoir, hein, la réconciliation après cette terrible crise post-électorale qui avait opposé Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Mais il est tout de même difficile de s'en convaincre dans la mesure où moins de la moitié des 6 millions d'électeurs sont allés voter. Et puis l'opposition n'a pas eu voix au chapitre lors de l'examen de l'avant-projet à l'Assemblée nationale puisque cette opposition qui avait boycotté les législatives n'a pas de députés. Bref, il n'y a qu'une partie de la classe politique et une partie des Ivoiriens qui a approuvé ce texte.
Oui, c'est sûr. Il y a eu un manque de pédagogie sur cette constitution qui est assez caractéristique, un peu dommage. Mais on nous a jamais expliqué en quoi la paix était garantie, en quoi tout ça allait être si pérenne. Il y a des choses très importantes comme abolir l'ivoirité, pour faire simple. On est d'accord, c'était une pomme de discorde très forte. Mais en même temps, il y a des dispositions qui ont fait débat. Mais aussi le fait que l'âge du président soit avancé, soit reculé. C'est-à-dire, si vous regardez le net, c'est une tornade. Mm-hmm. C'est ce point-là, spécialement. Donc, pour le moment, en ce moment, c'est juste des conjectures. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que les gens ont dit, ça y est, ça veut dire que le président Ouattara ne va pas respecter ses deux mandats, lui
après
aussi.
Après tout, il y a une nouvelle constitution. Peut-être qu'il va vouloir remettre les compteurs à zéro.
À zéro, voilà. Donc c'est à lui
d'autres l'ont fait, d'ailleurs.
C'est à lui de démentir à tous ces incrédules. Mm-hmm. Mais j'insiste que on aurait pu, il a annoncé avant les élections qu'il ferait ça. Tout ça a été fait au pas de course parce que il aime mettre le turbo, on a vu, sur la vie économique, tout ce qui a été réalisé en 5 ans, maintenant, en 8, 9, c'est considérable. Il aime faire les choses vite. Mais je pense que pour ce genre de document, ça aurait gagné à être plus discuté. Voilà.
Alors, n'oublions pas qu'une partie du Sénat, hein, des futurs sénateurs seront désignés directement par le chef de l'État. Passons par cela dit, les principaux contenteurs de cette nouvelle constitution qualifient cette constitution de règlement intérieur du RDR et du PDCI, c'est-à-dire les deux partis régnants. RDR, c'est Alassane Ouattara, PDCI, c'est Henri Conan Bédié, hein, qui avait mis en œuvre l'ivoirité, on s'en souvient, et puis qu'aujourd'hui doit manger son chapeau. Alors, une chose, c'est que aucun autre parti, finalement, n'a voix au chapitre dans cette affaire, de nouvelle constitution.
Ce qu'il faut dire d'abord, c'est vrai que cette précipitation à organiser un référendum était quand même un peu étrange, parce qu'il n'y avait pas urgence, à moins qu'on nous explique pourquoi il y avait une telle urgence, à faire voter un texte 3 semaines seulement après qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale. Il aurait fallu faire une campagne pédagogique beaucoup plus vaste, prendre le temps qu'il fallait, parce qu'il s'agit quand même de faire voter pour ce qui est le socle institutionnel d'un pays. C'est quand même la loi fondamentale d'un pays. Donc, il n'y avait pas d'urgence.
C'est fait pour unir en général.
Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qui a amené effectivement l'opposition à parler de calculs politiciens, d'arrière-pensée obscure, etc.
Est-ce que c'est fondé, ces craintes?
Alors justement, ça, voilà, pour l'opposition, ces stratégies sont tout aussi, disons, illisibles, parce que on se demandait, alors, ce front du non qui a été constitué, est-ce qu'il a été constitué pour contester un texte? Dans ce cas-là, il fallait aussi que l'opposition s'engage, je dirais, dans une campagne de pédagogie vis-à-vis des populations pour expliquer pourquoi elle contestait ce texte et quels articles, justement, de ce projet étaient contestés. Et on a eu l'impression plutôt que c'était une occasion de plus simplement pour l'opposition de contester non pas la constitution en tant que telle, mais de contester le régime Ouattara. Alors c'est devenu une affaire, je dirais, d'appareil politique. Absolument. Finalement. D'un côté, le pouvoir qui se précipite à organiser un référendum sans que l'on sache pourquoi une telle précipitation. De l'autre côté, l'opposition, évidemment, qui conteste avec cette stratégie classique qui était davantage, je dirais, une contestation du pouvoir davantage que la contestation d'un texte qui aurait gagné, évidemment, à être mieux expliqué aux populations. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, on va vers les législatives. Hein.
Absolument, en décembre.
Après la contestation, aujourd'hui, une bonne partie de l'opposition, dont Pascal Affine-Guessan, patron du FPI, annonce que, évidemment, le prochain rendez-vous, ce sont les législatives. L'opposition compte évidemment remporter ces législatives pour, le moment venu, abroger le texte en question. Mais là, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire et on y reviendra. Voilà, et l'on passe à la Centrafrique où l'opération Sangaris a officiellement pris fin ce lundi, presque 3 ans après son déploiement par la France. Le sujet est résumé par Tiffaine Honoré de TV5. Monde.
Une mission qui s'achève pour les 900 soldats français. Après 3 ans en Centrafrique, les militaires vont quitter le pays. 350 devraient rester prêtés main forte au casque bleu de l'ONU. Pour le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, la mission a été remplie.
Nous fermons une opération parce que cette opération était un succès.
Lancée dans l'urgence en 2013, Sangaris devait mettre un terme à la guerre civile. Mais les combats entre les miliciens anti-Balaka et ceux de l'ex-Séléka sont loin d'être terminés. Des affrontements ont encore fait plus de 40 morts cette semaine. Et des milliers de Centrafricains vivent toujours réfugiés dans des camps.
Actuellement, le président centrafricain Taoudera ne contrôle que Bangui, la capitale de ce pays, mais contrôle absolument pas tout l'est du pays qui est aux mains de la Séléka, et l'ouest est aux mains des anti-Balaka. Donc le départ de l'opération Sangaris est vécu de façon très durement pour les Centrafricains, qui ont l'impression que c'est un abandon.
Les soldats français étaient très attendus par la population pour faire cesser les massacres. Au final, l'opération aura coûté 500 millions d'euros. Elle se termine sur un bilan mitigé. Les troupes françaises laissent derrière elles une population vulnérable face aux milices toujours armées.
Voilà un sujet de Tiffaine Honoré de France 2 et non de TV5 Monde. Alors après le Mali, Pierre Benoît, la Centrafrique était, on le sait, le deuxième front de l'intervention militaire française en Afrique sous le quinquennat de François Hollande. Le président donc a décidé de mettre un terme à l'opération Sangaris, dit-il, afin de dégager des moyens pour d'autres opérations. Cette mission Sangaris était d'éviter donc des massacres à grande échelle et surtout aussi de désarmer les rebelles Séléka et les miliciens anti-Balaka. La première partie de la mission a été remplie, mais pas la deuxième, hélas.
La première partie, c'était finalement une vaste opération.
D'éviter des massacres de grande échelle.
Oui, voilà. Je pense que le ministre français Le Drian ne se paye pas de mots sur ce plan-là, mais uniquement sur ce plan-là. C'était une opération de gendarmerie à grande échelle. Le départ des forces françaises, il est bien trop tôt, parce que tout le processus de DDR, désarmement, réconciliation, etc., n'est même pas commencé dans la pratique. le président Touadéri ne gère et ne contrôle que Bangui. C'est un peu, c'est une image, mais je pense que c'est une vraie réalité. Et d'autre part, eh bien, non seulement ce processus DDR n'a à peine commencé, mais en même temps, les FACA, l'armée nationale, elle est à reconstruire entièrement.
Voilà. Alors, Francis, on l'a entendu dans le sujet. Notre confrère Antoine Glaser qualifiait ce départ de Sangaris de prématuré. Cela dit, 350 militaires français resteront tout de même cantonnés, notamment dans le cadre de la MINUSCA. Mais quand on tient ce discours d'ailleurs tenu également par Karim Mekasoa, le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, qui déplore ce départ donc de l'opération Sangaris, quand on tient ce discours, c'est que c'est presque une des considérations désobligeantes pour la MINUSCA, c'est-à-dire la force des Nations Unies, qui compte 12 000 hommes et qui opère toujours en Centrafrique.
Je crois qu'il y a un grand désarroi de la population centrafricaine et des acteurs politiques centrafricains, parce que au sein de la population, il y a ceux qui réclament le départ de la MINUSCA, et en même temps, les mêmes déplorent le retour, je dirais, à la maison des soldats de Sangaris.
Alors pourquoi ce manque de confiance à l'endroit de la MINUSCA ?
Je crois qu'il y a un manque de confiance d'abord fondamentalement dans les acteurs politiques centrafricains. C'est un chaos sécuritaire en fait. Ce qui fait que une fois sur place, Sangaris s'est retrouvé à faire justement une opération de gendarmerie, une opération de police à grande échelle. En réalité aujourd'hui, ce qui se produit, on fait partie Sangaris pour deux raisons. Parce que d'abord, on est à 7 mois de la fin du mandat de François Hollande et qu'il faut réduire un peu la voilure, il faut réduire les forces déployées à l'étranger. On commence par la force la moins utile qui est Sangaris finalement. Parce que la situation sécuritaire, la crise sécuritaire est intacte.
Elle est toujours là, oui.
Sangaris était parti pour être déployé pour 1 an et la force est restée 3 ans.
Trois ans
plus tard, la crise sécuritaire est exactement au même point, pratiquement au même point qu'il y a 3 ans. Ça a permis de réduire ce qu'on appelait le risque génocidaire.
C'est ça.
C'est cela. Ce n'était pas inutile, mais c'est vrai que la conjugaison de Sangaris et de MINUSCA, cela a permis évidemment de réduire, je dirais, la menace qui se profilait il y a 3 ans. Jusqu'à présent, la réponse militaire apportée à la situation sud-africaine est complètement, malheureusement, inadaptée.
Voilà. Brièvement, d'abord, que fait Sangaris, Marie-Roger ? La MINUSCA, pardon.
Ah ben, la MINUSCA
est...
On se le demande. Parce que, je dirais pareil pour Sangaris, puisque Sangaris est là, mais on se le demande. Il y a un gros problème aujourd'hui de toutes ces interventions militaires, soit de l'ONU, l'Union africaine, etc. Globalement, ça ne marche pas. On l'a dit, on l'a redit, et on ne change rien. Je me souviens, justement, quand Sangaris a été envoyé en Centrafrique, je me souviens qu'on a eu une certaine joie. On s'est dit, on voyait comment les gens s'entretuaient, les cellules. C'était l'horreur. On voyait qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir tout seuls. Personne, ils n'allaient pas s'arrêter tout seuls. Il fallait les aider. Bon, et on voit 500 millions d'euros plus tard. C'est-à-dire, tu dis, c'est juste la folie. Qu'on est au même point, les gens, on a un président, bon, je vous dis qu'on a, entre-temps, on a réussi à élire un président, hein, que c'est pas bien ça, bon, ok. Mais à part ça, mais c'est extraordinaire, on n'a rien de tous les enjeux sécuritaires qui étaient sur la table, aucun, je dis pas de...
Aucune évolution.
À zéro. Et on se demande seulement, c'est l'argent qu'on y a mis, et voilà, ça devait faire 1 an, ça a mis 3 ans. En 3 ans, on n'a pas réglé le problème, mais ça a coûté beaucoup d'argent. Donc on se dit, est-ce qu'on ne peut pas se dire tranquillement une fois, ça ne marche pas comme ça? Comment on peut vraiment aider les gens? Pense aux Zaïre aussi, ou à la RDC. Je pense à...
Au Soudan du Sud.
On a fait une opération coup de poing. On a fait une opération coup de poing parce qu'il y avait un risque d'affrontement entre les communautés, pour ne pas rappeler les choses concrètement, les forces musulmanes qui étaient armées, qui venaient en partie de l'extérieur d'ailleurs. Et puis derrière, rien, parce que c'est un collage. C'est un collage. Le pays n'a pas bougé. Les populations qui ont l'habitude d'ailleurs de vivre entre eux sont pris en otage par des groupes armés en partie pour le contrôle des diamants dans le nord du pays.
Il faut repenser les formats en fonction des conflits, de la nature des conflits.
Absolument.
Voilà.
Les formats
et les mandats. Un dernier mot sur Sangaris, une tâche sombre sur cette opération. Au moins 16 soldats français se seraient rendus coupables d'abus sexuels, notamment sur des enfants entre décembre 2013 et juin 2014, selon un rapport de l'OIT. l'ONU révélée par nos confrères britanniques du Guardian. C'était en avril 2015. RFI TV 5 Monde, on en vient au dernier sujet d'Afrique Presse, cette saisie de 18 kilos de cocaïne sur le port de Cotonou, suivi de l'interpellation de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon et de trois agents de son groupe agroalimentaire. Francis, et au moment où nous enregistrons cette émission ce vendredi matin, ici à Paris, eh bien, le chef d'entreprise est entendu par la justice. On ne sait pas si sa garde à vue sera suivie d'un mandat de dépôt, etc. En tous les cas, voilà, pour l'instant, il est devant le juge qui devra décider de la suite de la procédure. Toujours est-il que donc le patron des patrons, hein, le numéro un de l'agroalimentaire au Bénin, lui dénonce un complot, dénonce une main invisible qui aurait effectivement placé cette cocaïne dans l'un des conteneurs destinés à son groupe, conteneur donc découvert sur le port de Cotonou, et semble que les scellés d'origine avaient été détruits. Bref, c'est une affaire très très trouble.
Les scellés ont été changés, tout simplement. Donc il y a eu une intervention qui a précédé, je dirais, le constat de ces 18 kilos de cocaïne, entre guillemets, pure, hein, comme on dit les gendarmes. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un mauvais film qui est en train de se dérouler au Bénin depuis 7 jours. Alors, il faut penser quand même aux trois autres prévenus qui sont avec...
Des agents de sa firme. Ouais.
Il n'est pas seul. Je crois que le sort des trois autres prévenus est tout aussi préoccupant que celui de Sébastien Ajavon. Mauvais film parce que, d'abord, il y a beaucoup de zones d'ombre dans les éléments qui ont été apportés au public depuis une semaine. Le constat qui a été fait, alors on a trouvé effectivement 18 kilos de cocaïne en dehors des cartons, parce que cette affaire est révélatrice quand même du climat politique dans ce pays depuis 6-7 mois, oui. Depuis l'arrivée au sommet de l'État de Patrice Talon, où on assiste à une confusion entre pouvoir politique et pouvoir économique, avec évidemment tous les risques et toutes les conséquences que cela entraîne, c'est-à-dire des règlements de compte économique, souvent dirigé contre des entrepreneurs, des opérateurs économiques. Sébastien Ajavon n'est pas le premier, d'ailleurs, à faire les frais, je dirais, des assauts qui sont aujourd'hui dirigés vers certains entrepreneurs au pays.
Alors, Pierre-Benoît, la thèse du complot...
Non, mais un guet-apens politique, c'est assez clair. Il y a un climat affairiste qui s'est développé depuis la succession au pouvoir du président Talon, puisque ce sont tous des hommes d'affaires. Ajavon aussi est un homme d'affaires très puissant, etc.
Qui était aussi candidat à la présidentielle, arrivé 3e avec 22%.
En gros, le club des patrons qui prend la politique nationale en charge. Et qui développent leurs affaires les uns contre les autres. Alors peut-être que tout ça a été monté, peut-être qu'aucune preuve ne peut être nous amener à le penser, parce que bon, il y a quand même un truc intéressant, c'est que le patron de la gendarmerie qui parlait de cocaïne pure n'avait pas les moyens chimiques pour faire le test, etc. Mais il y en a d'autres, peu importe, c'est un feuilleton. Ça révèle finalement que le pays est gouverné d'une drôle de manière.
Alors que vous inspire cette affaire à Ajavon, faut-il y trouver un lien justement avec sa candidature à la présidentielle, Marie-Roger ?
Alors, il a soutenu Talon,
et
sans lui, il n'aurait pas pu gagner, par exemple. Donc, vous avez pratiquement parlé de cette ambiance-là, et c'est ça qui est, je crois, prédominant dans cette histoire. J'ai lu dans la presse béninoise qui soupçonne directement Patrice Talon d'une embrouille. De l'avoir piégé.
Qui est resté silencieux jusqu'à présent.
Mais qui était à Paris au moment de la découverte de l'affaire.
Voilà. Mais en même temps, des accusations directes. Voilà. Donc, il y a une ambiance là-dedans. Il dit rien. On verra.
C'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État.
Oui.
C'est une affaire d'État. Il y a une sorte de déliquescence à huis clos, hein, de ce qu'on appelle le système béninois. Le Bénin qui est souvent montré comme un exemple, un modèle démocratique, etc. Alors que derrière, je dirais, ce vernis, il y a une crise de valeurs, il y a une crise morale. Et puis surtout aujourd'hui, ce qu'on peut considérer comme une crise politique larvée. Et vous verrez dans les prochains jours, évidemment, la montée au créneau des syndicats qui commence évidemment à montrer le vrai visage de ce régime.
C'est la fin de ce débat. Merci Marie-Roger Biloa, Francis Laloupo et Pierre Benoît, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.